Ce soir, on refait le monde. Alain Desbarès sur Radio Armada pour une chronique hebdomadaire consacrée à l'état du monde et aux luttes de libération des peuples. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Il est bon de retrouver nos libertés, de pouvoir bouger, de se voir, de se retrouver entre amis, aller boire un coup, aller au resto. Mais bon, si on veut que ça dure, continuons à faire attention, ne relâchons pas notre vigilance. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour notre chronique consacrée aux enjeux internationaux, dont la pandémie nous a démontré encore une fois que dans un monde totalement interdépendant, y compris et en particulier au plan sanitaire, la coopération, la solidarité à l'échelle du globe sont plus nécessaires que jamais. Ce soir, USA aux racines de la révolte. Afin d'évoquer cette révolte qui sévit dans les rues de la plupart des grandes villes américaines et même des moins grandes, j'ai invité Christophe de Roubaix, journaliste à la rubrique internationale à l'Humanité. Bonsoir Christophe de Roubaix.
Bonsoir.
Vous allez bien?
Ça va, très bien.
Bon, c'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille sur l'antenne de Radio Armada. Et comment va l'humanité au sortir du confinement?
Ben, on réalise le journal dans des conditions qui sont assez particulières depuis plusieurs mois, un peu comme pour l'ensemble de la société. On travaille, on fait beaucoup de télétravail à distance. On peut, pour ce qui concerne l'international en plus, encore plus particulièrement, moi, pour les États-Unis, on ne peut pas se rendre sur place, donc il n'y a pas forcément la dimension reportage. On était impacté également par la crise de Presstalis, du distributeur, donc c'est une période qui est un peu, une sortie de confinement qui est un peu compliquée, hein. En fait, on n'est pas tout à fait sorti du confinement économique, qui n'est pas particulier à l'humanité, qui est propre à l'ensemble du secteur de la presse en France, malheureusement.
Ok, ben on suivra ça avec attention parce qu'on a déjà tenu une émission justement consacrée à la situation financière de l'humanité il y a quelques mois. Alors ce soir, nous retournerons donc aux États-Unis. Nous avions évoqué il y a quelques semaines avec Michel Muller une situation inédite où pour la première fois, lors d'une crise mondiale, nous pouvions constater l'absence de leadership des USA sur le monde. La mort violente le 25 mai de George Floyd, étouffé par un policier, a déclenché une vague de manifestations souvent violentes pour protester contre les crimes racistes de la police. L'assassinat de George Floyd fait suite à une série ininterrompue de drames dont est victime la communauté afro-américaine. Et ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase une nouvelle fois. Mais cette fois ne semble pas tout à fait semblable aux précédentes. Les Noirs américains ne sont plus seuls à descendre dans les rues. De nombreux Blancs, une partie de la jeunesse s'est jointe à eux. Gestion calamiteuse de la crise sanitaire du Covid-19, crise économique violente qui rejette des millions d'Américains dans la misère, et maintenant la révolte face aux crimes racistes, rien ne va plus, semble-t-il, au royaume de Trump et du dieu dollar. Rarement, un mouvement de contestation n'avait été aussi profond aux États-Unis. Quelles en sont les sources, les raisons profondes? Et vers quoi cela peut-il déboucher? C'est ce que nous allons évoquer pendant une demi-heure avec notre invité Christophe de Roubaix. Alors, tout d'abord, j'aurais vous proposé de commencer par faire le point de ces mobilisations contre le crime raciste de George Floyd et de ce que cela révèle de la crise que traversent les États-Unis. C'est en effet un véritable embrasement auquel nous avons assisté et on assiste encore. Et il y a eu un nouveau drame hier. On sent bien que ce crime, s'il en est le déclencheur, n'est sans doute pas la seule raison à cet accès de colère de nombreux Américains.
Oui, ça intervient dans un contexte qui est particulier, hein. Alors d'abord, il y a un embrasement, et c'est un embrasement qui est, après une ou deux nuits d'émeute, est devenu extrêmement pacifique. extrêmement politique. C'est quand même assez remarquable. On n'est pas dans le cadre des émeutes de 65, 67, 68 à Detroit, à New York, à Watts. C'est de nature différente. En tout cas, sur le contexte actuel, ça intervient évidemment dans le contexte du coronavirus qui a frappé de manière disproportionnée les quartiers les plus démunis, les plus paupérisés, et notamment les Africains américains, ce qui représente 11% de la population du pays et près du quart de ceux qui sont morts par le Covid-19. Donc ça a fragilisé ces quartiers de manière sanitaire, ça les a fragilisés socialement, avec un taux de chômage qui ont explosé là aussi parmi les emplois les moins qualifiés où sont surreprésentés les Latinos et les Africains-Américains. Donc il y avait tout un contexte de tension et de fragilisation dans lequel elle est intervenue. Donc ça, c'est le contexte, je dirais, immédiat de l'année. Après, il y a un contexte un peu plus long que je daterais d'une dizaine d'années avec la création de Black Lives Matter en 2014, donc ça fait 6 ans, mais qui intervient lors du deuxième mandat de Barack Obama, où en fait, il se passe deux choses. D'abord, il y a les réseaux sociaux qui prennent de l'importance à partir de la fin des années 2010, fin des années 2000, début des années 2010, et où on peut mettre des vidéos rapidement en ligne. Moi, quand par exemple, on me pose la question, est-ce qu'il y a plus aujourd'hui de violences policières et de tueries de policiers qu'avant? Pas du tout. Il n'y a pas d'explosion, sauf que c'est beaucoup plus documenté et ça devient plus public. Et puis, donc, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que le mandat d'Obama et sa promesse d'Amérique post-raciale a rapidement été démenti par la réalité, par la crise de 2008 et aussi par la continuation des violences policières. Et donc, il y a un mouvement qui s'est cristallisé autour de Black Lives Matter qui a fait un travail de conscientisation qui arrive à une forme de maturité aussi parce qu'il s'accompagne et il s'appuie sur une nouvelle génération qui est plus ouverte à ces questions que les générations précédentes. Et donc, à un moment, il y a une sorte d'effet masse qui se produit. Et on le voit bien dans la composition des manifestations. Ça a frappé. Et dans la composition des manifestations, dans la géographie des manifestations. C'est-à-dire qu'on a manifesté dans les 5 États des États-Unis. Et dans les États des États-Unis, dans des villes où on n'avait jamais manifesté de toute l'histoire de ces villes, y compris dans les. Donc c'est vraiment un mouvement national. C'est un mouvement qui est transgénérationnel, mais qui repose beaucoup sur la génération la plus jeune. Alors, on appelle les millennials, qui sont nés entre 80 et 96, mais qui est aussi les plus jeunes maintenant, les post-millennials. Donc, on voit que c'est une autre Amérique que celle de Trump qui est en train de protester, de contester, de porter un message qui est profondément politique, en fait.
OK. Alors, on va poursuivre, bien sûr, cet entretien, mais comme traditionnellement, on fait une petite pause musicale. Donc, vous pouvez nous dire ce que vous avez choisi comme pause musicale, je crois que tout à fait en relation avec le mouvement.
Oui, c'est en relation, c'est Fight the Power du Public Enemy, qui est une chanson de la fin des années 80. D'abord, ça permet de réhabiliter le rap auquel on accole des dérives qui sont certes existantes, mais qui ne lui sont pas forcément consubstantielles. Donc, le rap, c'est aussi et d'abord un message, un vecteur artistique et politique pour la communauté africaine-américaine depuis les années 70 et les années 80. Ça, c'est la bande-son du film de Spike Lee, Do the Right Thing, qui se termine par l'intervention de la police et la mort d'un jeune noir. Voilà. Donc on retrouve des éléments. Et déjà dans ce film de Spike Lee, je recommande le visionnage de ce film parce qu'il date de 89, je crois. Et en fait, il a pas vieilli.
Vous nous en redonnez le
Avec
titre? Vous nous en redonnez le
The
titre
Right.
pour les auditeurs?
Oui, Do the Right Thing de Spike Lee.
D'accord.
89.
Donc, et on écoute Fight the Power,
The Public Enemy.
The Public Enemy. C'est
Qui a
parti.
participé, qui a participé à un concert de. Je...
sound of a funk pajama. Music hitting your heart, cause I know you got a soul. Listen if you're missing, y'all. Swinging while I'm singing. Hey! Giving what you're getting. Knowing what I'm knowing. While the black man's sweating. In the rhythm I'm rolling. Gotta give up what we want. Gotta give up what we need. Hey! Our freedom of speech is freedom of death. We gotta fight the power. Stop beat. Fight the power. 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 We gotta fight the power. Stop beat. Algorithms designed to ground for death and centralize. Designed to fill your mind. Now that you realize the prize arrives. We got the pump to start to make it right. From the heart is the start of work of art to revolutionize. Make a change from the strange. People, we are the same. No, we're not the same. Cause we don't know the game. What we need is awareness. We can't get careless. You say, what is this? I'm beloved. Let's get down to business. Mental self-defense or fitness. The rest is shown. To make everybody see. In order to fight the power, can't be. Fight the power. 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 We've got to fight the power, can't be.
Bien, merci pour ce choix musical complètement alors dans l'actualité. Hein,
totalement, oui. Ouais.
Voilà. Alors, à la fois, vous nous parlez de Black Lives Matter, mais ce crime raciste qui a enflammé les choses, là, il n'est pas fortuit, il relève quand même... de ce que de nombreux spécialistes ont nommé racisme systémique hein, à propos de la société américaine. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur les sources du racisme aux États-Unis ?
Oui, je suis totalement d'accord avec cette idée de racisme systémique. J'utilise même l'expression racisme fondateur. C'est-à-dire que, ouais. Alors d'abord, l'esclavage arrive dans l'histoire de l'Amérique, qui n'est pas encore les États-Unis, dès 1619, avec l'importation des premiers esclaves dans une colonie en Virginie. Mais pour ce qui concerne les États-Unis, en parlant de moment fondateur, c'est la contradiction majeure qu'il y a entre la déclaration d'indépendance des États-Unis dont les premiers mots sont nous tenons pour une vérité évidente que tous les hommes sont créés égaux et qu'ils disposent de droits inaliénables, et la Constitution des États-Unis, donc 11 ans plus tard pour sa rédaction, qui contrevient à ce principe d'égalité et qui perpétue l'esclavage, notamment dans le Sud. Hein, voilà. Donc il y a une sorte de compromis qui est passé entre le Nord et le Sud, c'est que la nature fédérale des institutions américaines tiennent beaucoup à ça d'ailleurs. On crée le statut fédéral aussi et surtout parce que ça permet à chaque État de faire ce qu'il veut chez lui et donc de perpétuer l'esclavagisme. Et il faut quand même, donc on voit bien, il y a une sorte de péché originel ou de tâche, pour reprendre le nom d'un roman de Philip Roth, tout de suite, c'est-à-dire que la première république qui est créée sur la base des idées des Lumières, et aussi une république esclavagiste. Donc, tout de suite, à l'origine du pays, on a cette contradiction majeure. Et donc, forcément, on a un système qui se construit sur la nécessité, pour le système, hein, la nécessité de contrôler ces populations qui sont dangereuses. Voilà. Parce que quand il y a 3 millions de personnes dans un État, dont, enfin peut-être un peu moins d'ailleurs à l'époque, dont 1,5 million d'esclaves, on est forcément obligé d'organiser la société, une société d'ordre et de contrôle social, à travers la police. Donc, le rôle originel de la police, c'est ça, la justice, la prison, la peine de mort, la possession d'armes à feu. Donc on voit bien qu'il y a un certain nombre de caractéristiques de la société des États-Unis aujourd'hui qui viennent et qui découlent directement de là. Voilà, je peux faire plus long sur le thème, mais peut-être...
Non, 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 mais comment on explique bon, on n'en est plus à la création des États-Unis, on n'en est plus aux colons, on n'en est plus aux plantations de coton dans le Sud. On est au XXIe siècle, les États-Unis ont considérablement avancé intellectuellement, économiquement, politiquement. Comment on explique que ça perdure, que cette question ne se soit pas. Comment on explique qu'elle reste aussi profondément ancrée?
Oui, c'est un peu. Ben, évidemment, si on en reste à la question de l'esclavage, on peut donner corps à l'idée que c'est une histoire qui date de 2 siècles et que maintenant c'est terminé. Mais en fait, c'est comme les poupées russes, les poupées gigognes. Donc, on a l'esclavage, on
Ouais.
ouvre. Après, on a un siècle de ségrégation. Parce qu'il y a la guerre civile que nous on appelle guerre de sécession, mais qu'eux appellent guerre civile. Et donc, c'est le moment refondateur du pays qui, au moins, là, tient ses promesses sur le papier avec le 13e amendement qui abolit l'esclavage. Mais derrière, il y a une petite période de transition de 5-10 ans où, en effet, les droits sont reconnus, actés et mis en œuvre. Il y a d'ailleurs les premiers députés noirs. Sont républicains et sont élus en 1870. Et après, le Sud met en place un système de ségrégation jusqu'en 1964-65 et la loi sur les droits civiques. Et ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'après la ségrégation, il y a qui était une forme d'apartheid au sens où c'était institutionnalisé par des lois qui ont été validées par des arrêts de la Cour suprême. Et donc, on rouvre ça, on dit, bon, ben, ça y est, les droits civiques, ça fait 50 ans maintenant. Sauf que derrière, se met en place une sorte de ségrégation plus soft, moins institutionnalisée, et surtout des processus de criminalisation. C'est-à-dire que ceux qui étaient esclaves ont ensuite été ségrégués et ensuite ont été l'objet de criminalisation. C'est-à-dire que toutes les lois répressives sont prises à partir des années 68. La guerre contre la drogue est une guerre contre les plus démunis et les pauvres noirs. On fait en sorte un peu partout, et pas seulement dans le sud, hein, aussi dans les grandes villes, du nord et du nord-est, les anciennes villes industrielles. On fait en sorte de maintenir la ségrégation résidentielle, économique. On empêche toujours après 65 les familles africaines-américaines d'accéder à la propriété. Donc, on les maintient dans les mêmes quartiers, voilà. Donc, on voit bien qu'il y a un certain nombre de processus de domination qui prennent d'autres formes, mais qui, en fait, continuent à tirer ce même fil. Hein, on passe de l'esclave au ségrégué, puis au criminalisé. Et dans ce cadre-là, le rôle de la police est réorienté dès 68. Dès la fin des émeutes de 68, on crée des unités d'intervention qui s'appellent les SWAT et qui, en fait, sont des forces militaires qui interviennent dans les centres-villes, d'où les Blancs fuient, comme en territoire ennemi. Donc ça, c'est la troisième période dans laquelle on se trouve.
Alors, il semblerait tout de même qu'il y ait une prise de conscience d'une partie de l'Amérique blanche aujourd'hui, qu'on ne peut plus vivre de cette manière. Hein. Alors, en même temps, bon, je voulais qu'on revienne peut-être sur une question. C'est la situation avec ce Trump, ce Donald Trump. Jusqu'à présent, on avait le sentiment qu'il se sentait tout puissant, qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. La route vers sa réélection semblait dégagée. Et là, tout d'un coup, on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui se grippe, hein, avec ces crises qui se superposent. Et il semble qu'un rejet monte d'une partie de la société américaine à travers alors la crise du coronavirus d'une part et la façon dont il l'a gérée et le nombre de morts effarants, la crise économique qui en découle hein, avec l'absence de protection des salariés et puis la révolte antiraciste aujourd'hui. Alors est-ce que ça peut, cette situation nouvelle peut ouvrir sur un espoir de changement à la tête des États-Unis? et d'une administration au plan international, d'une administration américaine moins hautaine, moins agressive, moins isolationniste.
Oui, c'est une sacrée question. Ça. Est-ce que ça peut produire un changement ça peut produire un changement électoral. C'est évident. Est-ce que ça peut produire un changement politique? C'est aussi la suite du mouvement qui nous le dira. En tout cas, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ce moment vient dire quelque chose du pays, c'est-à-dire que ce pays est en pleine évolution, contrairement à l'image figée qu'on pouvait avoir avec la présidence Trump, et qu'il est en pleine évolution sous l'effet générationnel et d'un changement de mentalité porté par cette nouvelle génération. Je crois que on ne peut pas comprendre les États-Unis aujourd'hui si on ne comprend pas, un, que c'est un pays qui est extrêmement polarisé entre, pour aller vite, une Amérique blanche, vieillissante et qui économiquement ne se porte pas si mal, qui vote Trump, et une Amérique qui est plus diverse, qui est plus jeune et qui est plutôt démocrate. Et donc maintenant, enfin, la jeunesse américaine, quand je dis la jeunesse, les millennials sont maintenant quasiment 40 ans. Enfin, en gros, voilà, s'il faut un point de saisie, c'est les moins de 45 ans, donc qui ont vécu principalement après la guerre froide, donc le mot socialisme ne leur fait pas peur, qui ont vécu la crise du capitalisme de 2008, qui vit une forme de, par rapport aux générations précédentes, de déclassement social. Cette génération sait, et ces générations savent qu'elles vivront moins bien que leurs parents, avec un système social qui est extrêmement injuste et qui ne l'aurait plus supportable. Et puis, pas seulement, on voit aussi que le racialisme et le racisme de la société et des institutions. En fait, je trouve qu'il y a plus de racisme dans les institutions comme une trace qui dure depuis l'origine que dans la société elle-même. Et voilà, c'est un sentiment qui diminue, mais qu'il y a une sorte de persistance dans les institutions. Donc, tout ça, la candidature de Bernie Sanders en 2015-2016 avait aussi montré, portée par la jeunesse, avait aussi montré qu'il y avait une forme de renouveau politique. Ce qui est en train de se passer autour de la question des violences policières, on ne parle pas que de la violence, des violences policières, le mouvement ne parle pas que de ça. Il parle du rôle de la police qui est aussi une question de société, une question politique. C'est dans quelle société on veut vivre, qui on finance, comment on finance, comment on assure la sécurité publique. Ça, c'est des débats qui sont assez, assez fondamentaux. Donc, tout ça peut conduire au fait que Donald Trump, qui est un président minoritaire, il ne faut jamais l'oublier, il a 3 millions de voix de retard en 2016, lors des élections de mi-mandat de 2018, avec une très forte participation, les Républicains ont 10 millions de voix de retard sur les démocrates. Donc maintenant, la question pour celui qui porte l'alternative, au moins pour la présidentielle à Donald Trump, c'est-à-dire Joe Biden, est-ce que Joe Biden va incarner les espoirs de changement de cette Amérique qu'on voit dans la rue? Je ne suis pas capable d'apporter la réponse aujourd'hui. Je pense qu'il y a un certain nombre de contradictions assez évidentes. Et que lorsque Joe Biden, ainsi qu'un certain nombre d'élus démocrates au Congrès, disent tout de suite non à l'une des revendications majeures du mouvement qui est en anglais, ça s'appelle « defund the police », c'est-à-dire une sorte de définancement de la police. Mais ça ne s'arrête pas là, c'est-à-dire que définancement de la police pour réorienter vers les programmes sociaux, pour réorienter d'autres formes de protection collective. Et c'est un premier pas pour certains vers le démantèlement des forces de police, c'est ce qui s'est fait à Minneapolis. Donc Joe Biden coupe court tout de suite à une des revendications majeures du mouvement.
On peut regretter de ce point de vue que l'establishment, comme on lit, fait en sorte que Bernie Sanders ne soit pas le candidat démocrate, quoi.
Oui, oui, c'est vraiment une drôle d'année 2020 parce que alors bon, faut toujours se garder de si, mais le coronavirus intervient quelques jours, ou au moins un impact sur les États-Unis quelques jours, à peine après que Bernie Sanders ait perdu le Super Tuesday, alors que au moment du coronavirus éclatait à la face de tous les Américains ou de beaucoup plus d'Américains qui avaient besoin, par exemple, d'un système de santé publique qui Voilà. Donc, on peut toujours penser si le coronavirus était intervenu avant. Bon, on est un peu dans la fiction. Le réel, c'est que Bernie Sanders a perdu. Joe Biden sera le candidat. Bernie Sanders essaye de faire pression. Quand je dis Bernie Sanders, il y a plein d'autres mouvements derrière Bernie Sanders, ce n'est pas seulement lui. Hein. Sur Joe Biden et l'establishment démocrate, je trouve cet establishment démocrate, il est à la fois, contrairement à Donald Trump, qui le paradoxe du moment politique, on verra dans quelques mois, c'est que Trump n'est pas en phase avec l'évolution de la société, mais il est en ligne avec son électorat. Voilà, globalement, son électorat minoritaire demande de la loi, de l'ordre, de la police, et on s'en fout si de temps en temps, c'est la théorie des moutons égarés ou des pommes pourries, il y en a un quelque part, mais il n'y a pas de problème systémique. D'un autre côté, les démocrates apparaissent comme plus en phase avec l'évolution de la société, on l'a vu, à la fois leur façon d'appréhender ce mouvement, et en même temps, ils vont finir par être en décalage avec les demandes de ce propre mouvement s'ils ne répondent pas. C'est-à-dire s'ils disent, si Joe Biden continue à dire on n'a pas besoin de définancer la police, on n'a pas besoin d'un système public de santé comme l'a proposé Bernie Sanders, ça va être compliqué de convaincre ces gens d'aller voter pour lui dans un premier temps, avant même de pouvoir envisager une révolution politique sur le plus long terme, au moins un changement politique.
Ouais, donc c'est pas fait ce changement politique, hein.
C'est pas fait, non, c'est pas fait.
Parce qu'effectivement, on a pu voir ces derniers jours que Joe Biden, en même temps, comment je pourrais dire, ça faisait pas sauter au plafond, quoi, hein. C'est pas l'enthousiasme fou qu'on avait pu avoir à l'époque avec Obama, par exemple, hein, comme candidat à
Non,
l'époque.
non, il y a un vrai problème d'enthousiasme qui était déjà le cas, on le voyait dans les enquêtes d'opinion avec Hillary Clinton. Je suis quand même un peu surpris que, normalement édifié par l'échec d'Hillary Clinton en 2016, que Joe Biden et son équipe de campagne ne donnent pas un peu plus, à minima, de gages ou n'entendent pas un peu plus ce qui se dit dans la société. Bon. En même temps, si 2016 n'est pas 2020 et 2020 n'est pas 2016, dans le sens où en 2016, sûrement un grand nombre d'électeurs démocrates pensaient que la victoire de Donald Trump était impossible et qu'aujourd'hui Joe Biden joue sur l'anti-Trumpisme, mais qui s'enracine dans le fait que Trump est président et qu'il considère le scrutin de novembre comme un référendum sur Trump. Alors bon, je trouve que c'est quand même un peu jouer avec le feu que de ne pas mobiliser tout ce qui est mobilisable, ne serait-ce qu'en termes électoraux.
Alors, on va bientôt terminer notre émission. Une dernière question. Est-ce que là, on va voir se poursuivre ces mouvements? Est-ce que ça a des chances d'influer sur le fonctionnement de la société américaine?
Oui. Ben, c'est un papier que je prépare pour l'UMA de mercredi.
Ah,
Mercredi matin,
d'accord.
on fait l'événement sur l'impact qu'a eu le mouvement. Bon, moi, déjà, je vois un premier impact, c'est que on peut formuler l'hypothèse qu'on est au début de la fin d'une culture de l'impunité pour ce qui concerne les violences de la police. C'est-à-dire que le type, il y a encore eu un meurtre à Atlanta. C'est encore scandaleux, ça révulse encore. Sauf que la réaction a été.
C'est incroyable d'ailleurs, après cet émoi, après les révoltes, etc., il y a un flic qui se permet de tuer de nouveau un black dans les rues. C'est incroyable, quoi. On se dit comment c'est possible?
Et à chaque fois, on est sur des petits délits de rien du tout. George Floyd avait été suspecté d'utiliser un faux billet de 20 dollars. Lui était bourré. Il a reconnu qu'il était bourré. On veut lui mettre les menottes pour le nez. C'est à ce moment-là que ça dégénère. Donc on voit bien que là, il y a toute une culture de la façon de encore une fois, je n'ai pas mieux que l'expression de contrôle social de ces populations. Hein, au 19e siècle, en France, on parlait des classes dangereuses. Les classes dangereuses aux États-Unis sont noires, voilà, dans l'inconscient, dans le conscient du système et des bras armés du système. C'est ça. Voilà. Mais donc c'est à la fois totalement, c'est presque inconcevable que ça arrive encore après George Floyd. je vois une différence dans la réaction des autorités. C'est-à-dire que la maire d'Atlanta vire le chef de la police dans les 24 heures et le policier va le démissionner elle-même. Et le policier est viré manu militari. Voilà. Donc pour moi, je formule l'hypothèse qu'on est au début de la fin de la culture de l'impunité. Après, ça prendra beaucoup plus de mobilisation pour changer fondamentalement la police et son rôle. Mais globalement, on voit quand même quelque chose en train de changer dans la société. L'attitude des fédérations sportives par rapport au fait de mettre un genou à terre, ils avaient sanctionné Colin Kaepernick et avaient interdit ce geste en 2016. Désormais, elles disent on a eu tort. Elles disent pas on a eu tort parce qu'elles ont vu la lumière un matin en se réveillant. Mais en revanche, elles ont vu des millions de personnes dans la rue qui disent voilà. Donc il y a quelque chose qui est en train de changer dans le climat idéologique et des mentalités aux États-Unis. On n'est pas encore un changement politique et un changement systémique pour répondre à ce qui était aussi systémique, mais on est quand même on est dans une ère nouvelle, incontestablement.
Eh bien, on va suivre ça de près dans les jours, les semaines et les mois à venir. Merci Christophe de Roubaix pour ces
Merci à vous.
éclairages sur une société américaine qui nous déroute souvent, qu'on a un peu du mal à comprendre. Donc merci beaucoup. Merci à Alassane, notre technicien au studio. Et bonne soirée à tous. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour continuer à faire le point sur comment va le monde en quelque sorte. Et continuez à vous protéger. Bonsoir.
Bonne soirée.